Allez Bac FM, il est 18h30, mes invités ce soir vont nous présenter la nouvelle édition, la troisième, d'une marche importante qui est un événement annuel et qui prend de l'ampleur de plus en plus par l'organisation et par les participants présents. La marche des fiertés aura lieu le 1er juin, c'est samedi, elle emboîtera le pas à une soirée dans le hall de la scène conventionnée de Nevers, la maison. Ça c'est un résumé global de ce qu'il faut savoir, mais mes invités vont détailler tout ça, car il y a plein de choses à savoir. Bonjour Anna Zachman.
Bonjour.
Vous êtes une des organisatrices de cette Pride qui a évolué, je le disais, en 3 ans, notamment aussi grâce à des navettes qui sont mises en place. On va revenir dessus tout à l'heure, ça fait partie des détails qu'il faut savoir et des nouveautés de cette nouvelle édition. Une soirée après la marche, donc, aura lieu dans le hall de la maison de la scène conventionnée, la maison à Nevers, je le disais tout à l'heure, la Rainbow Party. On aura l'occasion d'en parler également avec Laurent Coder, vous êtes secrétaire général de la maison. Bonjour.
Bonjour.
La maison qui invitait des étudiants récemment, des étudiants neversois, c'était tout au long de l'année, a constitué un groupe d'ambassadeurs avec comme objectif de découvrir les coulisses de la maison au cœur d'une saison qui avait comme fil rouge le décloisonnement des genres, la fierté, à travers des spectacles, des expos et cette soirée donc qui a lieu samedi qui clôture cette saison-là, ce fil rouge. Bonjour Ciel.
Bonjour.
Tu fais partie toi des ambassadeurs justement de cette saison qui se clôture bientôt et ce sera donc l'occasion de revenir ensemble sur cette expérience qui s'appelle le vestibule. Et puis, dernier invité autour de cette table, membre du groupe local d'Amnesty International et un des organisateurs également de cette Pride. Bonjour Patrick Noyon.
Bonjour.
Alors, on a beaucoup de choses à voir ensemble autour d'un événement, en fait, qui est la 3e édition de la Marche des Fiertés. Une marche qui évolue, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir le parcours, déjà, de cette marche qui a lieu samedi?
Oui. Alors, on a rendez-vous à 15h sur l'esplanade donc, de la maison, où il y aura déjà les stands qui seront présents tout au long de la marche et à la fin de la marche. Et donc le parcours, on va faire une boucle et on va revenir sur l'esplanade de la maison, donc pour pouvoir aussi clôturer, enfin faire une pré-clôture avec un moment festif d'abord sur l'esplanade et jusqu'à, dans l'idée de pouvoir, si on le souhaite, rester jusqu'à l'ouverture de la maison et jusqu'à la soirée donc à la maison. Donc voilà, il y aura des stands, c'est un moment pour pouvoir discuter, se retrouver, échanger, voilà, avoir un moment convivial ensemble et avoir aussi des outils informatifs si besoin.
Comment il s'élabore ce parcours de la Pride? Est-ce qu'il y a un endroit tactique, des endroits tactiques où passer? Est-ce que voilà, c'est réfléchi longtemps à l'avance de « il faut passer dans cette rue-là, il faut passer devant tel peut-être magasin, devant telle institution, etc. »
Oui, il se réfléchit. Donc, déjà là, par rapport aux autres années, on a décidé de faire une boucle, effectivement aussi parce qu'il y avait ce partenariat avec la maison. Et puis, pour l'organisation, en fait, c'est plus simple. Comme ça, on peut laisser les stands au même endroit et c'est effectivement plus facile. Et puis après, c'est à la fois en fonction des travaux qu'il peut y avoir à Nevers. Donc ça, c'est en discussion aussi avec la mairie.
Et les services de la préfecture. Ce qui compte, c'est qu'on puisse défiler là où il y a aussi du monde à Nevers, parce que c'est une marche qui veut être une visibilité
et
montrer aux gens aussi la cause des personnes LGBTI. Donc, on souhaite passer là où il y a du monde. Bon, on connaît un peu le centre-ville de Nevers, c'est à la fois restreint et donc les rues sont vite choisies. Donc en général, on passe par la rue Saint-Martin, on essaie d'avoir la rue François Mitterrand, mais avec les travaux, ce ne sera pas possible. Donc il y a des détours et voilà. On essaie de passer dans les rues les plus commerçantes, les plus passantes, pour justement avoir un impact sur le public.
Ouais, avec cette volonté première d'être vu au maximum, combien il y avait de participants à la première année, à la deuxième année? Est-ce qu'il y a cet objectif, bien sûr, que de plus en plus de monde participe? Ça, j'imagine que oui, mais je fais mon boulot de poser des questions bêtes aussi.
Oui, bien sûr, il y a évidemment la volonté que ça prenne de l'ampleur dans le nombre de participants, participantes. La première année, il me semble qu'il y avait 500 personnes. Et la deuxième, moi je ne suis pas très bonne pour me souvenir des chiffres.
Entre 350 et 400.
Avec un objectif d'être plus nombreux cette année parce que aussi il y a ce partenariat avec la maison qui va peut-être être plus attractif pour le monde parce que soirée après, etc.
L'importance du partenariat avec la maison de la culture, elle vient d'abord que ça s'est inscrit dans le temps sur l'année, donc ça c'est très important. Et deuxièmement, c'est de, comme on dit souvent, c'est de toucher des nouveaux publics. Quoi. Et ça, la population qui fréquente la maison de la culture, a fait qu'il y a une diversité qu'on espère plus grande, en tout cas sur l'année il y en a sûrement eu une, et aussi à la soirée cabaret, les personnes qui vont prendre leur place et qui vont venir, il y aura un brassage je dirais de personnes et de populations qui vont être intéressantes. Hein. Ce qu'on peut constater, c'est que nous on a en tout cas été très surpris la première année de l'impact que ça a pu avoir.
Mmh. Et c'est vous ça qui pas,
pas du tout. On pensait peut-être 60 personnes. On avait aucune idée en fait de ce qui allait se passer. Et devant le monde, ben, on reproduit ça. Et après, avec le temps, ça se construit. Effectivement. Donc la deuxième année, c'était un peu différent, il y a un peu moins de monde. Les moyens sont très limités en termes de financiers. Donc pour faire de la pub, pour tout ça, ça peut être compliqué. Et donc cette année, on espère toucher au moins autant de monde. En tout cas, on pense qu'on aura une plus grande variété de public.
Vous parlez de visibilité comme objectif. Il y a aussi l'envie de revendiquer quelque chose en particulier, peut-être à travers cette marche, même plusieurs choses.
Bien sûr, Anna pourrait parler justement de comment elle vit sur Nevers, les rencontres qu'elle peut faire, les personnes qui peuvent lui témoigner de leurs difficultés et d'échanger, et ce qui a été mobilisateur pour elle et son amie dans la création de cette marche. Amnesty International, c'est un événement important depuis des années, la marche des fiertés, mais au niveau local, sans Anna et ses amis, il n'y aurait pas eu la mise en place de cette Pride. C'est avant tout des citoyens qui étaient dans les difficultés ou qui recueillaient eux-mêmes des témoignages, qui ont voulu donner une visibilité. Nous aussi, à Nevers, il y a des choses à faire. Mmh. Et nous, on a servi d'appui pour pouvoir organiser les choses.
Oui, et sur les revendications, bien sûr, il y a toujours des nouveaux droits à acquérir, surtout pour les personnes trans et les personnes intersexes, parce que c'est les personnes dans la communauté qui ont vraiment le plus d'écart de droits avec les autres citoyens, citoyennes. Notamment par exemple l'arrêt des mutilations sur les personnes intersexes. Les personnes trans non seulement ont moins de droits, mais là sont en train d'en perdre puisqu'il y a une loi qui a été votée par le Sénat sur l'interdiction des bloqueurs pour les personnes trans mineures et de traitements hormonaux. Et puis il y a plein de droits à acquérir sur la facilitation pour le changement de sexe à l'état civil, etc. Il y a évidemment, et puis après pour les autres personnes de la communauté, des droits qui sont acquis mais qui ne sont pas vraiment mis en place ou qui sont toujours difficiles d'accès, comme par exemple l'adoption pour les personnes, les couples homosexuels, qui est toujours, qui met un temps, qui a des délais d'attente. Ça peut être des dizaines d'années pour pouvoir adopter, donc qui sont vraiment un frein. Et puis l'accès après toute la hausse des violences LGBT LGBTphobes, comme dans l'accès au travail, au travail, à l'école, dans tous les domaines de la vie.
Il y a aussi une manière de dénoncer certaines choses au-delà de certaines revendications. Là, on est plus dans le fait de dénoncer certains actes que subissent malheureusement certaines personnes. Les revendications que vous faites, elles sont essentiellement nationales là pour l'instant, mais quand on organise une Pride à Nevers, est-ce qu'on a aussi un objectif de demander, peut-être de faire constater un manque de certaines choses au niveau local, que ce soit de Nevers, mais aussi de la Nièvre, en fait, en général?
Oui, bien sûr. C'est de là d'où est partie la volonté de faire une marche des fiertés, en tout cas à Nevers. C'est effectivement le constat qu'il n'y avait aucune structure pour les personnes LGBTQIA+, dans la Nièvre et même plus largement, effectivement, dans la région.
Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit comme structure? Quand vous dites une structure, pour certaines personnes qui nous écoutent, ça peut paraître vaste. Plus concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait dans cette structure? Qu'est-ce qu'elle devrait apporter et à quoi elle servirait, en fait?
Il peut y avoir déjà de l'écoute sur les personnes qui sont victimes de violences LGBTphobes, de l'accueil pour des mineurs qui sont mis à la porte de leur famille parce qu'ils sont trans ou gays ou lesbiennes, etc. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses.
Oui, il peut aussi de l'information auprès du public, pour dénoncer les discriminations que ces personnes subissent. Offrir un lieu d'écoute, notamment pour les jeunes, parce qu'il y a au sein des collèges et des lycées, c'est vraiment la question du genre est une question qui est primordiale et qui revient souvent dans leurs demandes d'information et cette demande n'est pas répercutée au niveau de l'éducation nationale. Donc là, il y a aussi un travail à faire. Donc un lieu d'écoute, un lieu de partage, un lieu d'accueil, mais tout ça, ça demande une structuration sous forme probablement associative, mais aussi des personnes qui sont prêtes à répondre aux permanences, à être là, et donc à une mobilisation qui soit constante et qui implique aussi du temps. Et
cette écoute que vous évoquez, Amnesty International travaille déjà à cette action-là.
Nous, on travaille sur une visibilité et sur une écoute à travers nos différentes instances, mais au niveau international. Ouais. Ce qu'on apporte de plus dans la marche, c'est justement la situation des personnes LGBTI+, dans le monde. Et cette situation, compte tenu des... C'est un phénomène très sociétal qu'on voit revenir de façon récurrente en cas de crise internationale. Là, donc toutes les minorités subissent une augmentation des discriminations qui leur sont faites. Mmh. Et la communauté LGBTI+, n'y échappe pas. Donc il y a une hausse dans le monde des actes homophobes qui s'accomplissent sur la planète. Et il y a aussi encore plus de 70 pays à travers le monde qui pénalisent le fait d'être LGBTI+, et il y a encore 7 à 8 pays où une personne homosexuelle risque la peine de mort. Donc il y a encore un travail à faire qui est constant et une pression à ne pas relâcher. Des pays démocratiques ou des pays reconnus sur la scène nationale qui persécutent encore les homosexuels, qui ont encore des conduites homophobes très marquées au niveau légal. Et le champ d'intervention de l'Amnesty étant justement de faire changer les lois et de les faire appliquer et d'agir sur des conventions internationales. On apporte ce plus-là dans la marge des fiertés qui, elle, fait un micro-focus sur la situation de la Nièvre et de la Bourgogne en général.
Et vous faites partie des stands qui seront présents à la clôture en fait, de cette marche, c'est ça? On pourra les retrouver au départ et à la clôture?
Tout à fait, oui. Avec l'ARDIS. L'ARDIS qui est une association qui s'occupe des migrants pour les demandes d'asile, et notamment des migrants qui ont dû quitter leur pays justement parce qu'ils subissaient des persécutions homophobes.
Quel autre stand on pourra retrouver justement à côté d'Amnesty International?
Eh bien, il y aura le stand de l'organisation de la Pride et puis un stand avec des livres sur les questions LGBTQIA+, donc qui seront sur consultation, et puis des stands plutôt, ça sera sur le même stand, mais il y aura un infokiosque donc avec des fanzines. Donc qui sont auto-édités et qui sont à prix libre autour de sujets autour de la question du genre ou des violences LGBT-phobes et du consentement, etc., de plein de questions qui tournent autour des questions d'orientation sexuelle et de genre. Et puis il y aura plus des flyers, des éléments plus informatifs. Et puis surtout, donc il n'y aura pas 20 000 stands, mais le but c'est vraiment d'avoir un lieu de rencontre, d'écoute, de pouvoir discuter, se retrouver et échanger autour de ces questions.
Et d'avoir les bons. J'aimerais revenir quand même 2 minutes sur ce kiosque. L'idée c'est d'informer, mais aussi de prévenir, parce qu'il peut y avoir aussi une partie de la population qui vient à cette marche comme ça en tant que. Pas observateur, mais qui vient juste pour participer finalement. Est-ce que l'idée de ce kiosque, il pourrait mûrir l'idée de le laisser dans Nevers tout le temps, en fait, de l'implanter à un endroit dans Nevers où il resterait toujours pour que les gens puissent venir s'informer justement et servir de prévention en fait à l'année et constamment?
Dans l'idée, oui, ça serait en tout cas, il y a l'idée de l'année prochaine de, pour l'instant c'est le collectif qui organise la Pride, donc c'est n'est pas constitué en association, donc là de plus en plus plusieurs personnes ont envie de faire une association et notamment effectivement d'ouvrir un lieu d'écoute qui pourrait être itinérant mais qui ferait aussi lieu d'information effectivement.
Il faut se méfier quand même sur un espace public. Tu disais tout à l'heure mettre un kiosque, ça reste compliqué encore pour les personnes, si ce n'est faire leur coming out, en tout cas pour assumer ce qui peut être de leur spécificité de genre. Et voir quelqu'un qui tourne autour d'un kiosque qui va traiter de ces questions-là, c'est déjà pour les passants se désigner comme étant lui-même gay ou lesbien ou autre, et donc de potentiellement risquer de subir des avatars ou des actes. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Je veux dire, le regard qu'on a sur l'homophobie, elle est très prégnante. Hein. Elle n'est pas encore aussi simple à assumer qu'on peut le croire. Donc, il faut être prudent. Il faut aussi amener ces personnes à se sentir dans un sentiment de sécurité pour pouvoir libérer la parole et la conduite.
Oui, effectivement, l'information en tant que telle ne suffit pas. Il faut des personnes formées qui soient là pour accompagner les personnes qui ont besoin d'aide. Et par ailleurs, si c'est pour de l'information plus générale pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées elles-mêmes, enfin tout le monde est concerné parce que ça implique de toute façon des schémas de pensée sociétaux, mais en tout cas qui ne se sentent moins concernés, disons. Voilà, ça passe par aussi l'éducation affective et sexuelle pendant le parcours scolaire et qui a effectivement besoin de professionnels qui soient vraiment au fait de ces questions-là et qui puissent intervenir. Voilà.
Justement, là aussi, il y a une évolution à faire sur le cadre scolaire sur ce thème-là, justement.
Oui, il y a effectivement, il y a l'obligation dans le parcours d'avoir des cours d'éducation sexuelle et affective, qui sont pas forcément pris en charge par des professionnels, aussi faute de temps, faute de budget, etc. Oui. Mais effectivement, je pense que c'est important d'avoir aussi localement des personnes qui soient formées et qui sont en capacité d'intervenir.
Pour les choses à savoir plus pratiques maintenant de cette Pride, de cette troisième édition de la Pride. Alors, j'ai évoqué les navettes tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'il y a des heures à savoir pour le départ ?
Oui, alors c'est des navettes qui sont organisées par Transgroupe Bus 58. Donc, on retrouve leur site sur Internet ou sur les réseaux. Il y a deux navettes qui sont proposées, une au départ de 2-6, donc qui pourront passer par éventuellement la machine ou un FIF, hein, qui pourront faire des arrêts en fonction des demandes. Et une au départ de Corbigny, donc qui pourront passer plus par Saint-Sauge, qui partent à 13h30. Et il y a un retour prévu après 18h, donc pour les personnes qui veulent repartir après la marche, et un départ à 2h du matin pour les personnes qui veulent faire la soirée à la Maison de la Culture. Voilà, donc ça c'est sur inscription, donc il faut vraiment penser si vous avez besoin de ces navettes, de contacter Transgroupe Bus 58. Et puis, s'il y a vraiment beaucoup de demandes, il y aura peut-être possibilité de repenser, de voir comment s'organiser. On voit aussi, on a un sondage en ligne sur le Facebook et Instagram de la Pride pour organiser du covoiturage pour les personnes qui soit ont une voiture, soit ont besoin de place dans des voitures. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le remplir pour qu'on puisse essayer de répondre aux besoins.
Afin que chacun puisse se rendre comme ils le veulent donc à cette troisième édition de la Pride, je parlais tout à l'heure de l'évolution dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Allez, si on se projette dans cinq ans, on fait une moyenne, comment est-ce que vous voyez cette Pride évoluer ? Quelles sont vos envies ?
Les envies, je pense qu'elles ne sont pas forcément sur la Pride en elle-même, parce que comme on l'a déjà dit sur les dernières éditions, l'idée c'était vraiment d'avoir un point de départ d'une visibilité, d'une revendication de droits, etc. Et puis effectivement, le fait de marcher, de se réunir, c'est très important, donc on va la garder. Mais c'est surtout l'évolution dans la structuration et dans le fait de faire des choses à l'année et de façon plus fréquente. Donc ça a été le cas grâce à la Maison de la Culture où on a pu avoir des spectacles en lien tout au long de l'année. Et les années suivantes, on aimerait continuer ce travail-là de faire des débats, des projections, des choses. Et puis peut-être des lieux structurants, effectivement, bon, ça demande plus de travail, mais d'avoir effectivement des structures, comme on le disait, qui puissent répondre aux besoins des personnes souffrant d'actes LGBTphobes ou tout simplement qui ont des questions.
Un point d'accueil comme on a le point d'accueil des coups de jeunes, par exemple, à cette image-là. On va faire une petite pause musicale tout de suite, juste avant de partir direction le hall de la maison qui accueille la soirée de clôture de cette nouvelle édition, de cette troisième édition de la Marche des Fiertés. On écoute tout de suite Nemo, c'est le gagnant du dernier Eurovision et on revient juste après avec mes invités.
Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like oh, let me taste the lows and highs oh, let me feel that burning fright oh, this story is my between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart.
Vous écoutez Bac FM, mes invités ce soir nous présentent la troisième édition de la Marche des Fiertés qui a lieu samedi et on va tout de suite prendre la direction de la maison. Cette marche va se clôturer à la maison, la scène conventionnée de Nevers avec la Rainbow Party de Monsieur K et le Cabaret Secret. Là je me tourne vers vous, Laurent Coderre, vous êtes le secrétaire général pardon, de la maison. Ce cabaret va transformer le hall de la maison finalement.
Oui, c'est une grande première et on a composé ça, on a eu des temporalités qui sont un peu dingues. Donc en fait, on a, avec Jean-Luc Revol, le directeur de la maison, on a pris connaissance la première année de cette marche puisqu'il était donné rendez-vous sur le parvis. Donc on s'en est parlé tous les deux, on s'est dit mais qui organise ça? On aimerait bien les rencontrer. Alors le temps qu'on les rencontre, on avait déjà posé la programmation suivante. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il nous a fallu deux marches pour pouvoir proposer au collectif de s'inscrire complètement, de les accueillir, donc de produire cette soirée complètement, d'en faire un événement festif, bien évidemment. Mais comme l'a dit Anna tout à l'heure, Jean-Luc Revol, qui est, un metteur en scène, par ailleurs, avec des spectacles notables qui ont reçu des Molières, comme le Cabaret des Hommes Perdus, ou des spectacles vraiment sur ces sujets-là, lui est bien évidemment... comme moi d'ailleurs, sensible à toutes ces questions, tout ce qui vient d'être évoqué, bien évidemment. Donc, il a souhaité composer un fil rouge. Et donc, comme la maison propose une saison pluridisciplinaire, il était intéressant justement d'aborder un petit peu ce thème des... Alors, on aime bien dire fierté, parce que finalement, c'est ce qu'on retient avant tout, plutôt que de parler de genre, même s'il s'agit de ça aussi, ouais. À travers des formes qui allaient du cirque au théâtre, à la danse. Voilà, et donc c'est un peu l'acmé, effectivement, de ce fil rouge. Et on est très heureux, très excités. On attend avec impatience d'ouvrir les portes à 19h30 samedi soir pour une soirée jusqu'à 2h du matin avec un DJ.
Ouais, une soirée en plusieurs étapes, hein, d'ailleurs. DJ set, et puis ensuite show de Monsieur K et les personnes sur scène. Il y aura 7 personnes, je crois, sur scène. Et puis retour d'un DJ set, puis retour d'un show. Voilà, ce sera un millefeuille de prestations.
Exactement, avec une déco, avec un plateau qui va être monté dans le foyer, dans le hall. Donc voilà, ça va nous permettre de tous nous réunir, d'avoir ce moment festif directement du parvis à l'entrée. Et on a vraiment hâte. Voilà.
Monsieur K, un petit mot dessus, comment il a été choisi, pourquoi il a été choisi aussi?
Alors tout à fait, Jérôme c'est un ancien de Madame Arthur, le fameux cabaret à Paris, donc il y a quelques années, il y a peut-être 5, depuis, allez un peu moins, il y a 10 ans, Madame Arthur a monté en gamme, on va dire, à Paris, c'était vraiment un endroit où tout d'un coup, qui dépassait presque Michou, même si Michou restait une institution, mais disons que Madame Arthur, les artistes chantaient, et chantent toujours d'ailleurs, donc il y avait un attrait comme ça pour aller voir effectivement des artistes très créatifs. Et donc, tout ce vivier, à un moment, a créé des groupes qui sont partis de Madame Arthur, dont Jérôme, qui lui a créé un cabaret, un néo-cabaret finalement, parce que c'est vraiment du cabaret d'aujourd'hui, qui s'appelle Le Secret, et qui prend lieu dans des lieux, dans des endroits assez confidentiels finalement, dans des lieux un peu industriels à Paris. C'est un rendez-vous comme ça qui se fait sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une soirée de grande proximité avec le public et des artistes qui présentent toutes sortes de performances. Donc on a fait appel à lui. Alors on est content aussi parce que son costume, enfin son personnage est représenté, était représenté dans la grande exposition du Centre National du Costume et de la Scène à Moulins qui a été démontée là fin avril. Donc il y avait son costume, son fameux costume, sa silhouette finalement, parce qu'il a une vraie silhouette qu'on reconnaît. Donc c'est le maître de cérémonie et Il nous ravit de nous amener ses comparses, dont la Big Bertha.
On parlait tout à l'heure de l'avenir de la marche. Est-ce qu'on peut le dire ici que la maison continuera à l'avenir pour les autres marches d'accueillir les derniers maîtres justement de cette marche pour d'autres soirées?
Ben quand on a rencontré Anna notamment, c'est vrai que tout de suite, ce qu'on lui a dit, c'est qu'il fallait, nous aussi, on vous pousse à vous structurer en association, parce qu'il serait beaucoup plus simple pour nous de véritablement faire une convention de partenariat et de pouvoir évidemment, à travers d'autres spectacles, alors pas forcément, il n'y aura pas ce fil rouge-là tous les ans, c'était exceptionnel cette année, mais...
On va bientôt connaître le prochain fil rouge, d'ailleurs.
Exactement, ben c'est ce soir, en même temps, tout à fait, exactement. En même temps qu'on parle.
On arrive à se téléporter.
Hein. Exactement. Et donc, quand l'association sera structurée, on pourra effectivement continuer à imaginer une forme de collaboration, peut-être plus ponctuelle, ou en tout cas, il y aura pas mal de choses sur lesquelles on pourra se pencher. Et évidemment, ce lieu que vous connaissez, qui fait quand même 7000 m², qui est un bel équipement, on le veut vivant, on le veut, voilà. Tout ça est assez excitant à imaginer ensuite, mais effectivement, une fois que l'association sera structurée, on pourra un petit peu envisager des choses plus concrètes.
Affaire à suivre pour l'avenir. En tout cas, ce qui nous intéresse là, c'est la soirée. Ça a lieu de 20h jusqu'à 2h dans le hall de la maison. À 9h, cette Rainbow Party, je le dis avec l'accent. Est-ce qu'il est encore possible de prendre des places?
Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez prendre des places sur Internet, sur le site maisonculture.fr. C'est une entrée, donc à 8€. Mmh. Sachant que nous sommes en partenariat avec le Crous.
Ouais, BFC, ça c'est intéressant.
Voilà.
Ce qui a été fait.
Et que le Crous a souhaité acheter 30 places pour les étudiants et a lancé effectivement un jeu concours. Alors c'est très simple, c'est même pas un jeu concours, il suffit de s'inscrire. Donc je sais qu'il reste des places. Voilà, je crois qu'il reste une dizaine de places peut-être à travers le Crous pour les étudiants. Et puis sinon, il y a cette entrée qui vous permettra d'accéder à la soirée, au spectacle. Et puis ensuite, on aura un bar tout au long de la soirée qui vous proposera aussi des rafraîchissements. Voilà,
on n'a pas cité le nom du DJ qui sera présent aussi et qui mérite d'être dit.
Oui, vous pouvez aller sur Instagram pour le découvrir avant de le rencontrer. Il s'appelle Emeric Bergada Ducadet. Et là aussi, c'est une découverte pour nous. On est heureux de découvrir un petit peu ce qu'il va nous proposer.
Et qui permettra donc de danser jusqu'à 2h du matin, si elle tue, sera bien évidemment.
Évidemment.
En tant qu'ambassadeur, tu n'as pas le choix en fait d'être présent.
Ah, c'est une obligation carrément.
Alors justement, toi, tu as eu la chance de découvrir la maison d'un autre œil. Tu as participé au vestibule, tu es un ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire déjà être un ambassadeur de la maison?
Bah, concrètement, le vestibule, c'est un projet qui a commencé cette saison
Et en fait, ça permettait à des jeunes étudiants de Nevers qui ont comme intérêt commun tout ce qui touche au domaine de la culture, de pouvoir avoir un accès un peu privilégié finalement à ce qui se passe à la maison, qui est donc connu à Nevers pour être l'endroit où il y a tous les spectacles culturels, etc. Et en fait, à travers un fil rouge, donc pendant la saison, on peut accéder à des spectacles super variés. Donc par exemple, on peut voir du théâtre, par exemple de la danse, du cirque, etc. Et donc on a un peu ce rôle d'ambassadeur, donc c'est-à-dire que on assiste donc à des spectacles qui sont un peu triés pour nous, enfin qui sont un peu organisés de sorte à ce
à une visée, ouais.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça exactement. Et donc du coup, on peut en parler à notre entourage pour justement un peu montrer finalement ce qu'il y a dans la maison, parce qu'on en entend souvent parler mais on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe finalement.
Faire travailler le bouche à oreille. Quand on s'est vu, Laurent, en amont de cette émission, on m'avait parlé d'un objectif de développement de dynamique des publics.
Oui, tout à fait, ça s'inscrit dans le développement des publics, parce que le public de demain, c'est d'abord avant tout les jeunes, hein, évidemment. Et voilà, Jean-Luc Revol a souhaité ouvrir la maison, effectivement, à 10 jeunes étudiants, pour leur permettre vraiment de connaître, alors de manière plus concrète, ben, les enjeux de la mission, voilà, c'est de programmation, de comprendre aussi le fonctionnement, parce qu'il y a 22 personnes à temps plein qui travaillent dans cette maison, de rencontrer des artistes, et puis évidemment de s'ouvrir aussi à d'autres, à tout un tas de formes artistiques différentes.
Mais parce que ça vient aussi d'un constat, de se rendre compte qu'il y avait une certaine tranche du public, de la population du moins, qui ne venait plus du tout, que ce soit des spectacles de théâtre, de danse, de chant, de tout ce qu'on veut. Hein, c'est, voilà.
Mais oui, dans notre mission de service public, effectivement, bon, on a toute une partie d'action culturelle qui commence dès le plus jeune âge, hein, avec dans les écoles, et puis ensuite jusqu'au lycée. Mais c'est vrai que la tranche, en fait, quand on sort du lycée et puis qu'on devient adulte, ben, ça se repose sur des études supérieures. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à Nevers, et c'est une chance, il y a des filières d'études supérieures qui se développent. Et donc, c'est à eux particulièrement qu'on s'adresse, pour que dans leur vie d'adulte, ils aient peut-être potentiellement, je crois qu'on y est bien arrivé avec les 10 là, envie de prendre un abonnement, de continuer à aller voir des spectacles, à être curieux. C'était surtout ça, voilà, que Jean-Luc Revol voulait. C'était susciter une forme de curiosité, puisque finalement, c'est aussi développer le sens critique au sens large dans la vie, de pouvoir réfléchir, de pouvoir voilà, avoir une vision, au-delà de susciter des émotions, et puis de partager, puisque vous partagez, en tout cas dans le groupe, et pas qu'avec dans le groupe, parce que vous avez vous amené aussi vos amis. Voilà, je voudrais juste aussi mentionner le fait que j'ai parlé du CROUS BFC cette année, donc ils nous ont accompagnés sur pas mal de choses, et notamment aussi cette opération du vestibule, du cercle de jeunes ambassadeurs, et ils se sont tellement engagés qu'ils ont effectivement financé 10 places pour l'entourage des ambassadeurs, c'est-à-dire que voilà, ils allaient dans vraiment...
Ils d'emmener de la famille ou des amis proches, etc. Ouais,
d'accord. Ça allait vraiment dans ce sens-là, où il fallait continuer à proposer dans la dynamique d'ambassadeurs, parce qu'on a mis en place un tarif qui n'existait pas, c'est un tarif unique pour les jeunes de moins de 26 ans depuis cette année, qui est à 12 euros. Jusqu'à présent, notre tarification est un peu complexe, je l'avoue, puisque ça dépend des types de spectacles. Et donc, on a fait le constat qu'on n'était pas lisible, effectivement, pour un jeune qui avait envie d'aller voir un spectacle. On ne savait pas, on ne comprenait pas trop.
Il a besoin, des fois, d'avoir un budget ou une fourchette. Et là, il est un peu perdu sur ce qu'il va payer.
Okay. Là, on joue le jeu tous les ans. L'année prochaine, bien évidemment, ça sera reconduit, puisque c'est un tarif qui a été voté par les élus de Nevers Agglomération, à 12 euros. Donc, sur tous les spectacles, absolument tous les spectacles, il y a des places à 12 euros. Alors, évidemment, il y a des spectacles où ça part plus vite que d'autres. Mais vous pouvez les prendre sur le site internet.
Ciel, qu'est-ce que t'as apporté, toi, cette expérience d'ambassadeur, maintenant que tu es en train de quitter ce statut petit à petit, parce que la saison s'arrête, tu seras un ex-ambassadeur bientôt. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Voilà, beaucoup de choses. D'abord, c'est vrai que j'ai toujours vécu à Nevers, et en fait, la maison, comme j'ai pu dire avant, on la voyait de loin, mais on ne savait pas vraiment ce qui s'y passait, en fait. C'est un grand bâtiment qui est assez impressionnant, quand même. Et entrer un peu dans les coulisses de la maison, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, notamment tout le fonctionnement qu'il y a derrière, et qu'en tant que spectateur, on ne voit pas forcément.
Parce que tu as rencontré tous les corps de métier, je crois. Il y a aussi cette notion de montrer que la maison est source d'emploi.
Oui, voilà,
participe à l'emploi de plein de personnes sur Nevers, et c'est intéressant de voir toutes les petites fourmis qu'il peut y avoir derrière, quand nous on va juste voir Louane par exemple en concert,
oui, voilà,
peu importe.
on voit des métiers que, dont on ne savait absolument pas l'existence, et c'est fou de voir la pluralité de métiers qu'on peut trouver. Mais outre ça, c'est aussi au niveau de la culture, justement, c'est parce que par exemple, il y a des spectacles que je ne serais pas forcément allé voir de moi-même, parce que ça ne m'aurait pas tenté directement, ou je ne savais pas vraiment, et je n'allais peut-être pas m'engager à acheter une place et y aller pour finalement ne pas savoir vraiment ce qui se passait. Et en fait, on a découvert des trucs vraiment super particuliers, parce que c'était vraiment très divers, quoi. Et c'était vraiment enrichissant, parce que ça montre aussi la pluralité des spectacles qu'on peut voir là-bas, et voilà.
Il y a la deuxième saison du Festibule qui va ouvrir ses portes très bientôt. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire, à proposer leur candidature en tant qu'ambassadeur ?
Bah, je pense qu'il faudrait directement y aller, parce que dans tous les cas, ils n'ont absolument rien à perdre. Même si, par exemple, on ne fait pas des études dans le domaine artistique, etc., ça peut toujours être super enrichissant, en fait. Enfin, par exemple, je suis en lettres modernes, donc indirectement, ça me concerne un peu, vu que, par exemple, il y a du théâtre, etc. Mais même si, par exemple, il y a quelqu'un qui fait une école d'ingénieur, ça peut toujours être super intéressant de voir, justement, plein de spectacles, etc. Et ça participe vraiment à une culture qui est super importante, quoi.
Alors justement, comment ça se passe pour les personnes qui voudraient participer à cette deuxième édition qui va bientôt ouvrir ses portes-là ?
Voilà, donc on va lancer le recrutement de la saison 2. On va rester sur le modèle qui a plutôt bien fonctionné l'année dernière, c'est-à-dire qu'avant l'été, puisqu'il y a des étudiants qui resteront, on va déjà commencer à faire passer effectivement une proposition de candidature en juin. Et puis c'est surtout en septembre que les choses vont se faire, et puis la première réunion sera probablement en octobre, mi-octobre. Donc pour ça, aucune inquiétude. Vous avez une adresse, c'est très simple, vous allez au local du Crous BFC et vous trouverez toutes les informations. Je pense que la plupart d'entre vous savent où il se trouve, au marché Saint-Arigle. Voilà, donc là c'est vraiment au Crous BFC qui eux nous aident beaucoup pour justement recevoir toutes ces candidatures, et puis ensuite voir ensemble. Il y aura des entretiens, forcément après il y a des entretiens avec chacun d'entre eux pour comprendre un petit peu voilà ce qu'ils attendent, si on peut aussi compter sur eux, parce qu'il y a une forme d'engagement quand même. Voilà.
On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur Bac FM pour les échéances à venir d'ici le mois de septembre et le mois d'octobre. En attendant, l'échéance à venir, c'est samedi, ce 1er juin, à partir de 20h, la Rainbow Party, ça clôture la marche des fiertés. On vous invite bien évidemment à participer à cette troisième édition à Nevers, et donc à la suite cette soirée à la maison, la Rainbow Party par Monsieur Kay, le cabaret. Le secret, c'est de 20h jusqu'à 2h. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.